C'est vous qui dites.
L'émission d'info locale.
Brest.
Coucou tout le monde. J'espère que ça va. On se retrouve pour la dernière quotidienne de la semaine. En fin d'émission, il y aura la chronique de Roman. Alors aujourd'hui, on est avec Alice qui est bénévole au planning familial et ce sera notre seule invitée du jour. Bonjour Alice.
Salut Maïwenn.
Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Oui, très bien, merci. Mais qu'est-ce que c'est le planning familial ? C'est d'abord un lieu où on peut aller. Il y en a dans toutes les grandes villes. En tout cas, moi, je viens de Rennes. Je sais qu'il y en avait un à Rennes. Et pour se faire aider en ce qui concerne la santé sexuelle, donc se faire dépister, se faire conseiller sur la contraception, sur la grossesse, cette association lutte aussi contre toutes les formes de violence, contre le sida et les IST, et contre toute forme de discrimination, et enfin contre les inégalités sociales. Alors, est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur le planning familial ?
Carrément. Alors, je vais parler un peu de ce que je connais, c'est-à-dire du local. À Brest, en tout cas, on a la particularité d'être uniquement bénévole. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire du conseil, de l'écoute, de la prévention. Et après, on va orienter les personnes qui viennent nous voir sur des dispositifs avec des professionnels de santé pour être accompagnés.
Et vous êtes combien au planning familial à Brest ?
Alors, on est une petite équipe. Là, on est une petite dizaine de bénévoles actifs.
Ok, d'accord. Et alors, donc le planning familial, il y en a depuis les années 30 en Grande-Bretagne. Est-ce que tu connais l'histoire un peu du planning familial ? Comment c'est arrivé à Brest, en tout cas ? Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave.
Non, je peux te donner quelques éléments. Après, les collègues peut-être me diront que j'en ai pas assez dit. En tout cas, c'est vrai que c'est né en fait de la volonté de groupes de femmes de pouvoir se réunir, de pouvoir être ensemble pour parler de grossesse déjà en premier lieu et pour parler aussi d'avortement, parler de leur vie affective, intime et sexuelle. Et donc ces groupes de femmes-là se sont réunis, ont discuté, ont échangé et au fur et à mesure des années, se sont créés en fait. C'est créé le planning familial dans cette volonté-là de pouvoir offrir des lieux accessibles à tous pour parler de ces questions-là qui à l'époque étaient tabous. Donc voilà, aujourd'hui la plupart des plannings familiaux sont des centres aussi de santé sexuelle. On peut y retrouver des psychologues, des médecins, des gynécos. À Brest en tout cas, on oriente vers des centres, notamment le centre de santé sexuelle qui lui va pouvoir proposer cet accès aux soins. Nous, on est la première étape, en fait, au niveau de la prise de parole, de l'écoute.
Et vous êtes situé où ?
Alors, on est au 16 rue Alexandre Ribot. On est dans les locaux du point H. Donc, il y a tout un ensemble de services de santé qui sont accessibles là-bas.
Ok, ok. Et alors, pourquoi toi, tu as eu envie de devenir bénévole au planning familial ?
C'est marrant que tu me poses cette question. Parce qu'au départ, moi, j'y suis venue vraiment par curiosité. J'accompagnais une amie. Pour avoir des petites infos, on était en faculté de psychologie. On avait envie d'avoir une expérience de terrain. Et donc, je l'ai accompagnée. Elle m'a proposé de venir. Au départ, on s'est inscrites. On s'est engagées toutes les deux. Et au final, c'est moi qui suis restée. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que ce qui était fait là-bas était important. Et que j'y trouvais, en tout cas, moi, quelque chose à apporter.
Et du coup, concrètement, toi, tu fais quoi au planning familial ? À quoi ressemblent tes journées quand tu es là-bas ?
Alors du coup, ce ne sera pas trop des journées, parce que du coup, on est bénévole. C'est en complément de nos vies personnelles et professionnelles. Mais est-ce que tu connais la notion de multitâche ? Et si oui, c'est exactement ça. Alors, on est divisé en commissions, donc des commissions IVG, des commissions communication. Moi, je fais un petit peu de tout, je ne vais pas te mentir. On fait aussi des permanences d'accueil et d'écoute, tous les lundis soirs de 18h à 19h30, à l'adresse que je t'ai donnée. Et ça m'arrive, du coup, de les animer avec une collègue.
Et qui c'est qui peut venir au planning familial ? Est-ce que ça concerne que les jeunes ?
Absolument tout le monde. C'est vraiment la porte ouverte à tout type de public, tout type de personnes. L'âge n'a pas son importance. On a toujours des questions sur la sexualité, sur la contraception, peu importe notre âge. Donc, pas de limite là-dessus.
Donc, tu interviens aussi au nom de l'interorgade d'assaut féministe de Brest. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot ?
Bien sûr. Alors, en fait, on a cette richesse à Brest d'avoir un puits associatif assez riche et varié. Ça, c'est une richesse, vraiment. Notamment niveau féministe, niveau queer, lutte pour les droits, de façon générale. Et donc, ce 25 novembre, mais aussi d'autres dates dans l'année, comme le 8 mars, ce sont des dates importantes sur lesquelles se rejoignent au niveau des luttes la plupart de ces associations. Et donc un jour, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on viendrait lutter chacun, chacune de notre côté? Et pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas justement créer de l'échange et créer un espace de collaboration où on pourrait organiser des événements tous ensemble et mettre à profit du coup nos bras, nos forces, nos voix et pour pouvoir créer quelque chose de plus grand et créer une dynamique aussi.
Et c'est quels assos qui sont dans cette interorga?
Alors, peut-être que je vais en oublier, mais en tout cas, il y a le planning familial, nous toutes Brest, Brest-la-Trans, les Pétrolettes, on a aussi des syndicats, donc Solidaire 29, l'Union Pirate. Et après, on invite toutes celles en fait, qui souhaiteraient nous rejoindre pour organiser ces événements à tout simplement nous contacter.
C'est quoi les événements à venir?
Alors là, aujourd'hui, on est le 20 novembre. Déjà, je souhaiterais le souligner, c'est le jour de mémoire des personnes trans. Voilà, c'est le thé d'or. Donc, on rend hommage aujourd'hui aux personnes trans qui sont décédées. Voilà. Et le 25 novembre, on va en fait... lutter pour cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux minorités de genre. Et dans ce cadre-là, on organise des événements. Et ça débute le 22 novembre, c'est-à-dire samedi. Est-ce que tu veux que je développe là-dessus?
Ouais, carrément.
Ouais. Du coup, samedi, on a ce qu'on appelle un dying à 15h à la place de Strasbourg, à Brest. Et un die-in, donc c'est une représentation symbolique. En fait, ce sont des participants et participantes qui... se voit attribuer des noms de personnes qui sont malheureusement décédées. On parle de féminicide aujourd'hui, on est à plus de 143 là, sur l'année 2025. Et donc en fait, on va venir représenter physiquement ces personnes qui ne sont malheureusement plus là. Et on va venir s'allonger au sol. C'est une manière d'avoir quelque chose de visuel et d'impactant. Et de comprendre la réalité de ce que c'est, que ces féminicides.
Et du coup, là, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux du planning familial, c'est que vous cherchez des gens pour justement venir s'allonger par terre, porter le nom d'une personne décédée en sa mémoire. Mmh. Et donc, comment on peut vous contacter si jamais on a envie de faire partie de ce dying?
On serait ravis que vous puissiez nous rejoindre. Alors, c'est vrai que l'idéal, ce serait qu'on ait un nombre de personnes qui soit à hauteur du nombre de personnes décédées. Actuellement on est à plus de 60, ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir, c'est plus que l'année dernière. Et pour s'inscrire, en fait, on a tout simplement une publication sur les réseaux sociaux. Il y a un QR code dessus qui vous mène vers un formulaire d'inscription. Et donc vous pouvez choisir de soit participer vraiment à l'événement, c'est-à-dire de représenter quelqu'un, de vous allonger, mais vous pouvez aussi participer en tant que spectatrice, venir donner du soutien d'une autre manière, c'est possible aussi. Et si jamais vous avez des questions ou besoins, qu'on vous envoie le lien à titre personnel, vous pouvez tout à fait nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être le planning, mais ça peut être nous toutes aussi.
Voilà, donc allez suivre le planning familial sur les réseaux sociaux. C'est planning familial de Brest, il me semble.
Tout à fait.
Voilà, voilà. Alors pour en revenir justement au planning familial, il y a quoi comme matériel qu'on peut retrouver là-bas?
Ce sera du matériel de prévention. Donc on va vraiment proposer gratuitement, c'est important, des préservatifs internes et externes, avec ou sans latex. Donc on va aussi proposer des tests de grossesse quand on en a, c'est ça. Et voilà, bon, c'est un petit peu les éléments principaux qu'on peut vous proposer en termes de matériel. En supplément des conseils, des informations et des flyers, des sources d'informations papier qu'on pourrait fournir aux personnes.
Voilà. Moi aussi, un truc que je me demandais un peu depuis le lycée, parce qu'un pote m'avait dit qu'il avait dû entendre d'un autre pote, c'est est-ce qu'on peut avorter au planning familial?
Alors nous, on accompagne les personnes pour la question du choix. C'est-à-dire qu'on peut vous accompagner dans cette démarche-là, si c'est un choix de votre part. Les mineurs et les majeurs, je précise aussi.
Ouais.
Par contre, tu ne pourras pas avorter au sein du planning familial, en tout cas au sein de notre local, puisqu'on n'est pas professionnel de santé. Et vu la taille de notre local, ça va être très compliqué. Mais du coup, on invite les personnes à prendre contact avec le centre de santé sexuelle de Brest, qui se trouve en fait à l'hôpital Morvan, bâtiment 5. Et là, des professionnels qui sont compétents et compétentes vont pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Voilà.
Ok, c'est aussi un soutien émotionnel du coup.
Exactement.
Dans cette démarche. Et du coup, même si on est mineur, on peut venir tout seul, pas forcément accompagné d'un majeur, et dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'avorter.
Aujourd'hui, on a cette question qui est très importante de l'accompagnement des mineurs dans ce genre de démarche. Comme je te disais tout à l'heure, nos rendez-vous ils sont accessibles à tout le monde. Et il nous arrive de rencontrer des personnes qui sont mineures. Et dans ces cas-là, oui, on peut les accompagner au centre de santé sexuelle et on peut les accompagner en tant qu'adulte référent, personne référente. Voilà. Mais la personne référente, excuse-moi, ça peut être aussi un professionnel de santé sur place.
Ok, d'accord.
Mais en tout cas, la personne mineure qui souhaiterait avorter, elle peut déjà prendre premier contact par téléphone avec le secrétariat qui va lui expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Mais le planning familial peut effectivement soutenir dans ce genre de démarche et l'a déjà fait.
Ok, d'accord. Bah ça, c'est bon à savoir. Ça, je ne savais pas du tout quand j'étais un peu plus jeune.
Mmh.
Et où est-ce que vous trouvez les fonds aussi pour le planning familial?
Donc, c'est une association de loi 1901. Du coup, ce sont des associations qui sont subventionnées. Alors, les subventions, ça peut être des subventions de la ville, par exemple, notamment, j'y pense, qui nous soutient dans ce projet-là d'éducation populaire et d'accès aux droits de santé. Donc, la ville nous finance en majorité. Et maintenant, on a d'autres fonds par rapport à des appels à projets aussi et des fonds spécifiques sur la vie affective et sexuelle qu'on peut demander, par exemple, au département ou au national. Donc, on va venir un petit peu chercher ce qu'on peut en termes de financement. Aujourd'hui, les associations sont toujours financées. Il faut savoir qu'il y a une particularité, c'est que ces financements, ils sont en question hein, par rapport aux politiques actuelles. Voilà.
Oui, j'ai vu sur votre site Planning familial en danger. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Tout à fait. Alors, le planning familial, c'est un mouvement d'éducation populaire. Et je ne vais pas te cacher que la politique a beaucoup à voir là-dedans. En fonction des politiques sociales, en fonction des politiques qui sont investies, on peut avoir plus ou moins de freins par rapport à l'accès aux subventions, au financement. Si du jour au lendemain, les politiques décident de ne plus suivre les institutions comme le planning familial, on peut se retrouver en grande difficulté, puisque nos actions sont possibles uniquement grâce à ces financements.
Ce qui mettrait en difficulté des gens, enfin des millions de gens, je pense, surtout des personnes du coup mineures qui n'ont peut-être pas forcément d'autres ressources. Donc, ouais, et comment on peut vous aider
Alors, tu peux faire un don au planning familial, c'est tout à fait possible, il suffit de chercher sur Internet et il y a des cagnottes en ligne. Alors, nous, à Brest, à titre personnel, on n'a pas la possibilité de faire des dons en ligne. Par contre, si tu souhaites faire des dons lors d'événements où on est présente, on peut tout à fait les recevoir. Voilà. Et ces dons-là, ils servent à accompagner les personnes que l'on reçoit en consultation d'écoute aussi.
Ok, d'accord. Bah, ça paraît hyper bon à savoir en vrai. Alors, on va continuer l'interview après avoir écouté A Forest, un titre de The Cure. Mais attention, là, c'est repris par Holly and the Bollywood Orchestras qui nous ont concocté une version Bollywood de ce classique. Bonne écoute sur Radio U. C'était Euphorès de Holly and the Bollywood Orchestra sur Radio U 101.1. On est avec Alice qui est bénévole au planning familial. Alors vous faites également des interventions dans les écoles, des débats, des ciné. Il y a quoi à venir au planning familial ?
Sur le planning familial spécifiquement ? Ah là 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 là.
Ou avec l'inter-orga des assos
Ouais, alors peut-être pour te parler du planning rapidement et ensuite je te parlerai de plus globalement sur les événements à venir.
Ouais, ouais, vas-y.
Si ça te va. En tout cas, au niveau du planning familial, on fait partie en fait d'un groupe de travail au niveau de la ville, un collectif en santé sexuelle qui organise en fait le... Alors je crois que c'est un jeudi 11 décembre, si je ne suis pas trop nulle en date, jeudi 11 décembre en tout cas au lycée du Puy-de-Dôme, il y a un séminaire en santé sexuelle du coup, qui est organisé par, par la ville avec des intervenants et des intervenantes. C'est à destination en majorité pour les professionnels et l'après-midi aussi pour les élèves avec un forum. Donc en tout cas, on fait partie de l'organisation de cet événement, en tout cas des discussions. Est-ce qu'on y sera présent, présente ou pas, c'est en question, puisque du coup, nous sommes bénévoles. C'est en semaine, c'est en journée, donc là-dessus, c'est un peu compliqué, comme toujours.
Oui, forcément.
Ça, c'est le planning. Et pour te parler de l'inter-orga, eh ben, on a des grosses dates, effectivement. Je ne sais pas si c'est trop tôt dans l'échange. Tu voulais en parler peut-être après,
ah
du
non,
25
vas-y,
novembre,
vas-y,
ou c'est carrément ça. Bah, du coup, le 25 novembre, je t'ai parlé du 22. Là, on avance un petit peu. Là, on arrive au mardi 25. Et en fait, on sera là sur la date officielle. Et donc, le soir, on vous invite à nous rejoindre à 18h à la Place de Liberté. À la Place de la Liberté. Je ne connais même pas mon territoire. pour un rassemblement, des prises de parole et ensuite une manifestation. Donc, c'est des moments comme le die-in du samedi qui sont très forts, qui sont mobilisants, qui sont demandeurs en énergie. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de venir avec la vôtre. Comme ça, on peut se compenser les uns les unes les autres. Venez avec vos pancartes, venez avec votre voix. Voilà. Il y aura une prise de parole pour vous inviter à réfléchir sur la raison de cette journée. Nous, on part sur un mot d'ordre qui est « résistance féministe contre les violences patriarcales », parce que, du coup, ces violences patriarcales, systémiques, elles interviennent dans toutes les strates possibles et inimaginables de la société. Et donc, c'est là qu'on va parler d'intersectionnalité, de convergence des luttes.
C'est quoi intersectionnalité ? Je ne connais pas ce mot.
Alors, c'est venir lutter ensemble sur différents aspects de notre okay. militantisme, notre féminisme. C'est vraiment inviter toutes les luttes à venir se rejoindre, puisqu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes dans la lutte contre le validisme, contre la grossophobie, pour le droit des travailleuses du sexe. Voilà. On vient prendre ce qui nous rejoint, ce qui nous rallie dans ces luttes-là, et on vient travailler ensemble. Voilà. Et généralement, ça donne quelque chose de plutôt pas mal.
Ben, quand tout le monde se réunit pour des causes qui les touchent tous, qui nous semblent tous importants, je pense que ça peut être un beau moment et en même temps un moment très important. Donc soyez présents. Et oui, par rapport au planning familial, moi je me demandais pourquoi c'était important pour vous de continuer d'organiser des activités hors les murs du planning.
Est-ce que tu peux préciser hors les murs ?
Bah, du coup, les interventions dans les écoles, pourquoi c'est important pour vous d'y aller, de... je sais pas.
Alors là, on rejoint un petit peu la question de l'éducation à la vie affective en établissement scolaire, mais vis-à-vis des plus jeunes. Là, en fait, pourquoi est-ce que le planning continue à proposer ce genre d'action ? C'est parce qu'on sait aujourd'hui que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle intervient dès le plus jeune âge, elle intervient dès qu'on est tout petit. Alors forcément, quand on a 4 ans, on ne va pas vous parler de la même façon que si vous avez 15 ans, 16 ans, 18 ans. Mais sur les questions de consentement, qu'est-ce que c'est un corps, comment je me l'approprie, est-ce qu'il est à moi, est-ce qu'on a droit d'en faire ce qu'on veut, ça c'est des questions qui interviennent dès le plus jeune âge. Et ensuite, au fur et à mesure des années, on vient compléter ce discours-là avec des éléments supplémentaires qui sont adaptés aux âges des enfants et des personnes qu'on a face à nous. On va commencer à parler de contraception, on va commencer à parler de relations sexuelles, de protection, toujours avec cette notion de consentement, de bienveillance, de respect. Et aujourd'hui, comme le planning familial a été investi de cette question-là, on trouve que c'est important de nous inviter encore dans les écoles, à la mesure de nos moyens humains. On ne peut pas toujours le faire, on a beaucoup de propositions de structures extérieures et on les remercie vraiment beaucoup de penser à nous pour le faire. Mais encore une fois, je le rappelle, si vous n'avez pas de réponse, on est vraiment navré et on n'est pas beaucoup. Et du coup, on essaye de vraiment répondre au mieux à vos demandes. On peut aussi vous transmettre de la documentation sur comment aborder la question, vous, en tant que professionnel dans des écoles, à des enfants plus ou moins jeunes.
C'est vrai que c'est hyper important d'en parler. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui avance beaucoup aussi, comment on en parle aux enfants de ce genre de sujet. J'ai envie de dire que quand j'étais petite, j'ai jamais entendu parler du consentement. C'est peut-être à 14 ans que j'ai appris ce mot, que maintenant ça m'avait fait plaisir dans le centre de loisirs où je travaillais. Tous les enfants, ils savaient ce que c'était à peu près le consentement. En tout cas, bah non, tu me touches pas les cheveux, c'est mon corps, j'ai pas envie. Donc, ouais, ça c'est super important parce que s'ils savent faire se respecter plutôt leur consentement, ça veut aussi dire qu'ils vont respecter le consentement des autres. Et ça, c'est super précieux, c'est super important.
Et je me permets de te préciser, n'ayez pas peur, surtout, je parle là aux professionnels qui agissent dans les écoles, n'ayez pas peur, on ne va pas parler en fait à 4 ans des mêmes questions, comme je disais, hein, qu'on parle à 15 ans, 16 ans. Le discours sera adapté, on ne va pas venir choquer les enfants, utiliser des termes qui ne sont pas adaptés. Maintenant, on est aussi dans une forme de réalité. Et aussi, c'est important ce travail-là, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des violences sexuelles dans les familles, dont l'inceste, mais aussi d'adultes à d'enfants. Et aujourd'hui, c'est donner des outils, des clés aux enfants aussi, pour pouvoir décider, pour pouvoir parler, et qu'on puisse empêcher ce genre de comportement.
Ouais, carrément, ça c'est super important aussi. Alors, donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le planning familial qui est en danger, moi j'aurais un petit mot à dire, c'est qu'on sait que nos droits en tant que femmes ou en tant que personnes faisant partie des minorités de genre, ils peuvent reculer à tout moment. C'est ce qui se passe aussi aux États-Unis par exemple, maintenant que l'avortement par exemple est devenu illégal dans plusieurs États. Toi, comment, enfin, je sais pas si t'es mieux renseignée que moi du coup à ce sujet-là en France, mais comment tu vois la situation en France ? Est-ce que pour toi, ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être quelque chose qui peut nous tomber dessus aussi à tout moment ?
Alors moi, je comprends l'inquiétude qui entoure cette question des États-Unis. C'est très violent ce qui se passe là-bas. C'est très violent ce qui se passe là-bas sur les questions d'avortement, mais aussi sur les questions de transidentité, sur les minorités de genre, sur les personnes queer. Donc on s'inquiète véritablement de la montée de ces discours qui sont d'extrême droite, hein, forcément.
Carrément, ouais.
Ça, par contre, c'est une réalité. Alors, est-ce que c'est la même chose en France ? Est-ce que j'ai peur que ça arrive en France ? Pas dans l'immédiat. On a quand même une structuration qui fait que ce ne sera pas immédiat d'avoir des prises de décision pareilles. En revanche, c'est plus insidieux. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, comme je te parlais de politique, on est sur un revirement, là, on peut mettre en danger nos droits. Puisqu'à chaque fois qu'il y a des changements sociétaux, ce sont les droits des personnes, des minorités de genre et des femmes qui sont toujours, toujours fragilisés. Et ça ne changera pas. Et quel que soit le pays dans lequel ces transformations arrivent. Donc voilà, là, on a vu des avancées au niveau de l'avortement en France, quand même. Donc c'est rassurant d'une certaine manière. En revanche, pourquoi on continue d'être là et pourquoi on continue de se mobiliser ? C'est parce que du jour au lendemain, potentiellement, ces droits, ils peuvent reculer. Et je pense qu'il faut en être conscient et consciente et continuer de porter la voix de celles qui ne peuvent pas le faire aussi.
Merci beaucoup Alice d'être venue avec nous ce soir sur Radio U. Plutôt pour les auditeurs, les auditrices, soutenez le planning familial, c'est important. Et bonne soirée et bon courage pour la suite.
Merci Maïwenn, salut.
Salut. Et tout de suite, on va accueillir Romane pour sa chronique.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on repasse en revue les infos qui ont marqué la semaine.
Alors, on commence avec la situation diplomatique à Gaza.
Ce lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a validé le plan
de Trump sur la pacification de Gaza. Pourtant, les différents acteurs rentrent en contradiction. Alors que l'autorité palestinienne demande rapidement le déploiement de la force internationale prévue, le Hamas refuse toute entrée sur le territoire qui pourrait bafouer les libertés humaines. Quant à Israël, le premier ministre Netanyahou a rejeté le texte. Il s'oppose à toute reconnaissance de l'État palestinien. Et dans la nuit de lundi à mardi, une frappe israélienne a touché le camp de réfugiés palestiniens au Liban. L'attaque a fait 13 morts, que Israël a justifié en accusant le Hamas d'y entraîner des combattants. Cette attaque remet une fois de plus en question donc la fiabilité du cessez-le-feu imposé par les États-Unis le 19 octobre.
Maintenant, direction le Brésil avec la COP30.
Mardi, des milliers de militants se sont rejoints à Belém, au Brésil. Leur but, contester la participation des lobbies d'agrobusiness et d'hydrocarbures à la COP30. Une présence fortement contestée en raison de leur implication dans l'exploitation des énergies fossiles et de la forêt amazonienne. Depuis les accords de Paris, en 2015, de nombreux pays s'étaient engagés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Plus facile à dire qu'à appliquer, aujourd'hui le problème n'est toujours pas résolu et l'inaction climatique des États-Unis n'arrange rien. D'où la nécessité de protester pour faire remonter les contestations jusqu'aux négociants. Car les discussions se terminent demain et il y a encore espoir qu'un consensus soit accepté entre les pays pour réduire progressivement l'utilisation des combustibles fossiles.
Le conflit au Soudan revient sur le devant de la scène internationale.
Hier, le président Trump a affirmé s'engager dans l'instauration de la paix au Soudan. Depuis la chute de la dictature en 2021, le pouvoir est disputé par deux factions militaires. D'un côté, les forces armées du pays et de l'autre, les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire dirigé par Hemedi. L'ONU a déjà lancé un message d'alerte à la communauté internationale. Et le bilan humain est déjà très lourd. Plus de 150 000 morts, une famine qui s'étend, des populations forcées de fuir, ce qui place le Soudan dans une crise humanitaire grave.
Du nouveau dans l'affaire du festival d'Angoulême.
Aujourd'hui, on a appris l'annulation du festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui se déroule en début janvier 2026. Si vous n'en avez pas entendu parler, le festival fait l'objet d'un boycott depuis plusieurs mois. Les auteurs de bandes dessinées et éditeurs dénoncent des mauvaises conditions d'accueil, un mépris envers les bénévoles et une mauvaise gestion de la condition des violences sexistes et sexuelles. Les services publics s'en sont mêlés et ont appelé à l'annulation du festival. Une actu qui fait du bruit dans le milieu de la BD, mais qui soulève des questions sur l'avenir du festival. C'est une affaire à suivre. C'est fini pour cette revue de la semaine. Je vous souhaite une excellente soirée et d'avance, un bon week-end.
Merci beaucoup Romane et merci beaucoup à vous les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté C'est vous qui le dites. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles quotidiennes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radio-u.org. Bon week-end.
Radio-U.